C'est la dernière étape avant Noël, aujourd'hui, le dernier dimanche qui précède la grande veillée de Noël. Il est beau de voir à nouveau la figure de Jean-Baptiste pour nous donner le chemin à suivre, pour recevoir de sa part la lumière, lui qui était le disciple de la lumière. On peut appliquer à Jean-Baptiste le morceau d'Isaïe, le prophète, que nous avons lu à la première lecture. Ça nous dit quelle était l'intériorité de Jean. Et il est bien choisi, ce passage. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui sont brisés, qui ont le cœur brisé. Et ensuite, je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a revêtu du vêtement du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. On voit bien, ça ressemble aussi d'ailleurs au Magnificat de la Vierge Marie. Jean était ce contemplatif, ce mystique qui avait été envoyé au désert. Il a reçu l'Esprit de Dieu dès sa jeunesse. Nous savons bien, ses parents étaient âgés. Et donc, très vite, il les a perdus. Et les évangélistes nous disent qu'il a été au désert dès sa jeunesse. Et au désert, eh bien, il réalise, eh bien, que le monde est fondamentalement séparé entre lumière et ténèbres et qu'il n'y a aucun milieu. Nous, nous inventons toutes sortes de milieux, de pis-aller, d'intermédiaires. Mais quand on est vraiment dans le monde de l'esprit de Dieu, on voit les choses bien plus clairement et d'une manière bien plus globale aussi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça, c'était la caractéristique de tous les prophètes de l'Ancien Testament, dont le prophète Élie. Souvent, la formulation, c'est « Et l'Esprit du Seigneur fondit sur tel ou tel. » Et à partir de ce jour-là, eh bien, il se mit à accomplir sa mission, à faire de grands signes. Jean-Baptiste est de cela, et il récapitule toute cette tradition de ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Et il peut reconnaître le Christ, puisqu'il le dit lui-même. Le critère que Dieu lui a donné, c'est celui sur lequel tu verras l'esprit comme une colombe, sous la forme d'une colombe, reposer. Celui-là, c'est le Christ. Or, tout fonctionne comme si Jésus venait chercher auprès de Jean, eh bien, ce qui va faire le point de départ de sa propre mission. Vous voyez, même l'esprit, Jésus a. Et Dieu, il n'a pas besoin de l'esprit, mais ça symbolise la mission de Dieu sur la terre, en quelque sorte, l'Esprit Saint. C'est comme s'il venait chercher auprès de Jean cet esprit que Jean avait reçu et que Jean lui transmet, parce que l'esprit ne lui appartient pas. Et c'est à ce moment-là que Jésus prend, eh bien, l'initiative par rapport à Jean le Baptiste, dans la mission d'annoncer le royaume, bien sûr. On voit aussi qu'il reprend, eh bien, la mission de Jean-Baptiste au désert. Et on peut comprendre par l'expérience de Jésus, à travers l'épisode des tentations, l'Esprit le poussa au désert pour y être tenté, nous disent les évangélistes. C'est exactement ce qu'avait vécu Jean avant lui. Et Jean avait vécu toutes ces tentations, dont les trois tentations du Christ sont la récapitulation en quelque sorte. Donc il vient chercher l'Esprit, et l'Esprit va le former, va préparer en lui les chemins du Seigneur. Comment est-ce possible? Nous avons affaire à Jésus-Christ, la seconde personne de la Trinité. C'est qu'il a aussi une nature humaine. Il est vrai Dieu et vrai homme, c'est le mystère du Verbe incarné qui est en face de nous. Et Jésus a tenu humblement à aménager les chemins du Seigneur dans sa nature humaine. Il est beau de voir Jésus qui passe par toutes les étapes de la vie. Et à Noël, c'est la première de toutes, et la plus belle et la plus humble aussi. Il va naître. Il va naître sous la forme d'un petit enfant qu'on va déposer dans une mangeoire. Alors, pas étonnant qu'ensuite, devenu adulte, eh bien, et se rendant au désert auprès de Jean, eh bien, il désire commencer sa propre mission à partir de celle de Jean. C'est très beau de voir cette continuité entre celui qui prépare, qui annonce le Seigneur qui vient, et le Seigneur qui vient, effectivement, parmi nous. Ensuite, on sait aussi, pour ajouter, pour compléter, que Jésus va également baptiser. Enfin, ses disciples vont baptiser sous son regard. C'est-à-dire que vraiment, il prend le point de départ du désert, c'est-à-dire de la prière pour recevoir l'Esprit de Dieu. Et à ce moment-là, eh bien, tout peut se réaliser. Le grand message de Jean le Baptiste à ceux qui viennent le voir ici, donc ces prêtres et lévites envoyés par les pharisiens, nous précise le texte, eh bien, c'est « Se tient au milieu de vous celui que vous ne connaissez pas ». C'est une grande annonce, une annonce extraordinaire. Alors, d'abord, il précise les choses. Je ne suis pas le Christ, je ne suis pas Élie, je ne suis pas le prophète des temps ultimes qui va remettre toute chose à sa place. Il a pourtant l'esprit d'Élie. Il en a reçu la mission. Élie, c'était celui qui avait combattu les religions païennes, qui avait pris toute la place en Israël sous l'influence de Jézabel, la femme du roi Achab. Mais le culte des Baals. Et il était le dernier prophète, Élie. Et il va tout renverser, il va restaurer véritablement la foi d'Israël, alors que les gens, eh bien, étaient tous pris par le paganisme, par les valeurs du paganisme. Mais cependant, Jean-Baptiste ne se prend pas pour une réincarnation d'Élie. Il n'a pas la mémoire d'Élie, il n'a pas sa personnalité, ils sont deux personnages différents. Pourtant, c'est bien cet esprit de restauration qu'il reçoit, cette même mission que le prophète Élie. Pourtant, lui ne va accomplir aucun miracle, c'est ce que diront les gens d'ailleurs. Ben, Jean-Baptiste, il n'a accompli aucun miracle, mais il avait un tel don pour connaître la vérité. Et c'est ça le principal. Dans le cycle d'Élie et d'Élisée, on est charmé par les faits et gestes de ces deux héros spirituels, les miracles qu'ils accomplissent, les combats qu'ils remportent. Mais ce n'est pas ça le principal. Le principal, c'est d'être mu par l'Esprit de Dieu pour connaître la volonté de Dieu et la faire connaître aux autres. Comme c'est précieux le témoignage de la vérité, le témoignage de la lumière, bien plus précieux que les miracles les plus étonnants. Et Jean-Baptiste, eh bien, c'est son grand témoignage à lui. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, parce que pour le reconnaître, il faudrait voir l'Esprit de Dieu. Il faudrait voir la colombe qui vient du ciel. Mais vous, vous n'êtes pas spirituel. Vous êtes des aveugles. Et il précise d'ailleurs dans d'autres évangiles, il traite les pharisiens d'hypocrites, de menteurs, de pécheurs invétérés. Il faut avoir au moins cette bonne démarche de vouloir connaître la vérité. C'est la condition du salut. Parce qu'on ne peut pas recevoir la vérité si on ne désire pas vraiment la connaître. Se tient au milieu de vous celui que vous ne connaissez pas. Nous ne connaissons pas Dieu, même quand nous connaissons son nom. Pour le connaître, il faut avoir cette intimité qui nous met en relation avec lui dans la prière, dans la contemplation, ce que le désert symbolise. Et vraiment, l'avant, c'est un grand temps de prière et de ressourcement pour accueillir celui qui va naître parmi nous. Bien sûr, il est déjà là. Et justement, il est déjà là, nous connaissons son nom, il s'appelle Jésus-Christ. Mais est-ce que nous le connaissons vraiment? Nous avons, nous-mêmes croyants, besoin de nous renouveler dans la connaissance de Dieu, sans cesse. Et la prière est faite vraiment pour ça. Seigneur, Je ne te connais pas assez, Seigneur, je ne t'aime pas assez. Donne-moi la grâce de te connaître et de t'aimer davantage, pour ta plus grande gloire. Voilà quelle doit être notre prière, la plus élémentaire. Donc, l'esprit d'Élie, c'est ça, c'est rétablir ce désir de Dieu et enlever les obstacles moraux qui s'opposent précisément à cette réalisation. C'est donc la même lutte contre les fausses religions de ce monde, mais aussi contre une mauvaise conception de la religion d'Israël. Les pharisiens ont dit dans le monde de l'exégèse, les pharisiens croyaient en la résurrection. Ils ont donc à leur manière préparé les chemins du Seigneur. Alors pourquoi Jésus les accable tant lorsqu'il parle d'eux ? Il y a quand même une contradiction. Oui, ils croyaient en la résurrection, mais pas la résurrection chrétienne. Ils croyaient en une résurrection automatique. Il suffisait d'être membre du peuple élu, le peuple d'Israël, et de mettre dans sa vie en pratique les commandements du Deutéronome, et alors, résurrection automatique. Et pour mettre les commandements dans leur vie, ils les avaient complètement gauchis pour les rendre accessibles et possibles, sans être en relation avec Dieu, par la seule force de leur poignet. Et Jésus leur reproche d'avoir gauchi la loi et les commandements. Alors effectivement, la pratique des commandements conduit à la résurrection, mais ce n'était pas du tout la conception mensongère que les pharisiens en avaient. Et puis eux espéraient une résurrection automatique. On entre directement dans le royaume des cieux, sans savoir en quoi ça consistait d'ailleurs, ils ne pouvaient pas. Mais on peut ressusciter pour tomber en enfer. Et ça, nous le savons, le Christ nous l'a appris. Il n'y a rien d'automatique dans la résurrection. Alors il faut mettre plus au-delà de la loi, il faut mettre l'amour de Jésus dans sa vie, et c'est comme ça qu'on ressuscite dans la lumière. Oui, nous ne connaissons pas Dieu, pas assez. Jean-Baptiste, tous les ans, liturgiquement, vient nous rappeler cette grande évidence. Nous devons connaître Dieu davantage au fur et à mesure de notre croissance sur cette terre. C'est notre mission. Et l'annoncer, préparer les chemins du Seigneur, nous aussi, eh bien auprès de ceux avec lesquels on est en contact et en relation. Alors au cours, puisque nous sommes à la veille de Noël, admirons le grand miracle qui dépasse tous les miracles que Jésus a faits. Il est né parmi nous. Il a pris notre condition humaine et il s'offre à notre regard et à notre amour sous la forme d'un enfant. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus beau pour nous dire « Je vous aime, Dieu nous aime ». Le Créateur, il vit dans l'éternité, l'incorporéité. Eh bien, il veut partager cette condition de créature qui est la nôtre, même pas la condition des anges. Non, il veut. Il a décidé de devenir un homme, lui aussi, sans renier sa nature divine, et de connaître tout ce qui fait nos maux, nos difficultés, nos limitations. Alors il a tout connu, on ne peut pas faire un procès à Dieu en lui disant « Toi, tu es confortablement installé au ciel, dans ton fauteuil, et nous, nous peinons sur la terre ». Il l'a fait. Il est mort sur une croix. Donc considérons le grand amour que Dieu a pour nous en veillant, en attendant cette manifestation de Noël.